Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits d'armées. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Bunker, consacré aux films ou aux séries qui ont trait à la guerre ou aux faits militaires. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Leleu, historien au CNRS et à l'Université de Caen, spécialiste notamment du débarquement de Normandie. Je peux rappeler que vous étiez déjà venu dans le podcast pour en parler, pour parler de votre ouvrage « Combattre en dictature, la Wehrmacht face au débarquement » paru chez Perrin, je pense que ça devait être il y a un peu plus d'un an maintenant. Grand spécialiste donc de cette bataille de Normandie. Et c'est un livre, je vais le redire parce que l'épisode date un peu, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, que j'avais beaucoup apprécié, qui est je pense vraiment un des ouvrages d'histoire militaire marquants de ces dernières années. Et donc je suis ravi de pouvoir vous recevoir à nouveau pour parler toujours d'un sujet proche, mais l'aborder peut-être par l'angle de la fiction, par l'angle de la culture cinématographique, puisque alors c'est pas exactement un film ou une série, mais c'est en fait, il va s'agir de mettre en série justement un certain nombre d'œuvres qui ont trait évidemment à la bataille de Normandie. Alors on est parti, on en discutait pour préparer l'émission. Il y a évidemment le soldat Ryan, qui est évidemment le grand monument, qui va avec naturellement Band of Brothers, dont on parlait à ce micro il n'y a pas si longtemps, pour le comparer à The Pacific, c'était un épisode avec Michael Shurkin, et puis que vous avez décidé de mettre en série donc avec un troisième film qui a été pendant très longtemps le film référence sur cet épisode-là, qui est Le jour le plus long, qui date des années 60, de 1962. Alors peut-être partons justement du plus ancien et du jour le plus long, donc film avec John Wayne, Henry Fonda, etc., tout à fait marquant, tout à fait central. Voilà, comment est-ce que ce premier film, donc le plus ancien, comment est-ce que vous lisez en ce qui marque une certaine lecture, en tout cas une certaine vision de la bataille de Normandie et du débarquement?
Merci, tout d'abord bonsoir à tous et à toutes. En quoi il est important ce film, Le jour le plus long, lorsqu'il sort en 1962? Eh bien tout simplement, il va poser l'histoire de ce débarquement, parce qu'on pense qu'on a l'histoire, lorsqu'on se rappelle, en tout cas lorsqu'on évoque le 6 juin finalement, on se souvient beaucoup moins du 6 juin que du film Le jour le plus long, qui raconte ce débarquement. Alors il est tiré de l'œuvre éponyme de Cornelius Ryan. Cornelius Ryan qui est lui-même correspondant de guerre, qui a participé au débarquement, et qui a voulu en faire une fresque très humaine. C'est ce qui a rendu d'ailleurs son ouvrage, qui en a fait immédiatement un best-seller lorsqu'il est paru aux États-Unis à la fin des années 1950. Et en tant que contemporain, il a vécu aussi ces événements. Il est aussi sous emprise quelque part. Il a vécu, il a peut-être des difficultés à se détacher des événements qu'il a vécu. Parce qu'il faut rappeler une chose avec ce débarquement du 6 juin 1944, on n'a pas d'équivalent dans les annales de l'histoire militaire contemporaine d'une bataille, je dis bien une bataille, pas une guerre, mais une bataille qui soit annoncée plus de 3 ans à l'avance. C'est-à-dire dès la fin de l'automne 1940, Hitler et Churchill, par discours radio diffusé interposé, se lancent le défi de débarquer sur le continent, Hitler dans une posture de plus en plus défensive et Churchill, notamment après l'entrée en guerre des États-Unis, qui est lui beaucoup plus offensif.
Et donc, je me rappelais que c'était un espèce de fil rouge aussi de votre ouvrage, de combattre en dictature, cette espèce de déconstruire un peu ce récit qu'on a de la bataille de, enfin, le débarquement de Normandie, cette surprise par rapport à l'opération Overlord, etc., la feinte, enfin, bon, vous le dites, vous l'écriviez très bien, que s'il y a bien une bataille que tout le monde savait qu'elle allait, se produire, c'est la bataille de Normandie, puisque c'est une bataille qui a été surconstruite avant même son déroulement.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un hasard si Cornelius Ryan et des dizaines d'autres correspondants de guerre couvrent l'événement, parce que c'était immédiatement, le 6 juin, un événement monde que tout le monde, justement, l'univers attend. Et d'ailleurs, ça fait les gros titres de la presse mondiale immédiatement. Et donc, cette couverture, elle se transforme chez Cornelius Ryan dans cette volonté de donner un récit assez épique et humain de ce que l'on pense être la plus grande aventure militaire de cette époque. Le récit est repris par Daryl Zanuck, qui lui-même va y plaquer sa lecture, sa vision des événements. Avec l'idée que...
Zanuck, c'est donc le réalisateur.
Oui, pardon, le producteur et co-réalisateur, enfin réalisateur officieux, mais en fait très officiel dans les faits. C'est Daryl Zanuck, grand producteur de la Century Fox notamment, qui décide de s'emparer de ce récit, mais de plaquer sa vision, avec l'idée que les démocraties unies sont plus fortes que les dictatures. Et ce message, il le porte dans un contexte bien précis où le mur de Berlin a remplacé le mur de l'Atlantique. Et en fait, cette lecture du jour le plus long ne s'en rend pas suffisamment compte encore de nos jours, mais c'est d'abord et avant tout un film de la guerre froide. Pour preuve, on a par exemple, vous avez cité John Wayne parmi les figurants. Si vous regardez Le jour le plus long, à aucun moment il n'est fait référence à la guerre sur le front de l'Est. À aucun moment on évoque l'URSS. Par contre, John Wayne, calmer ses paras qui sont impatients de sauter et qui, alors que le débarquement est ajourné à cause du mauvais temps, leur dit que les Britanniques, eux, sont en guerre depuis 1940. En fait, donc il y a une sorte de petit retour historique, assez léger, mais il y a une référence, par exemple, à cette guerre, à ce qui s'est passé avant, mais pas après. En tout cas, et surtout, on ne parle pas de l'URSS et de la guerre sur le front de l'Est, qui est quand même le front principal pendant plus de 3 ans.
Ça renvoie à votre âge, mais qu'il faut replacer les choses et que le débarquement de Normandie, il se comprend aussi par rapport à la saignée qui était la guerre à l'Est pour les troupes allemandes, et qu'à bien des égards, les troupes qui étaient là, soit c'était des troupes qui venaient de l'Est mais qui ont gardé les traces, mais que fondamentalement, le manque de moyens des Allemands pour faire face au débarquement de Normandie vient de la guerre gigantesque qui se déroule à l'Est.
Oui, tout à fait, tout à fait. Après, vous avez l'autre choix, un grand choix de Daryl Zanuck. Alors qu'on est dans une période où la couleur s'impose, par exemple, on a les grands péplums, Cléopâtre, par exemple, qui est tourné à peu près au même moment avec Liz Taylor. Lui, il fait le choix inverse, le choix du noir et blanc, qui renforce l'aspect documentaire. Et d'ailleurs, on voit certaines scènes sont tournées, par exemple l'arrivée des planeurs, il y a un côté presque documentaire, mais cela...
Avec ce paradoxe qu'on a vu par de multiples documentaires qui avaient déjà de la couleur pendant la guerre, et que ça... enfin, mais bon, évidemment que c'est l'image qu'on avait de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulée, comme chacun sait, en noir et blanc.
Exactement. Et donc, ça renforce le caractère documentaire, d'autant plus un autre choix artistique, c'est d'avoir une palette d'artistes et de réalisateurs multinationaux. Vous avez aussi bien Bourvil que John Wayne, que Sean Connery, que Kurt Jurgens, et donc cela renforce l'idée aussi, cette idée de donner un caractère un peu plus véridique aux événements qui sont décrits. Et l'impact, il est énorme, parce qu'il suffit de regarder, quasiment, si je vous dis le jour le plus long, tout le monde va avoir, la plupart de ceux qui l'ont vu vont se rappeler du parachutiste accroché au clocher de Sainte-Mère-Église, et la plupart des sites touristiques parmi les plus visités de nos jours, eh bien, ils ont été tournés sur place, ou en tout cas, on donne l'illusion qu'ils ont été tournés en Normandie sur place. Et c'est aussi un film dans sa réalisation qui participe à l'armement mental de toutes les sociétés occidentales. Avec, il s'appuie notamment sur la coopération entre Hollywood et le Pentagone, puisqu'il y a une aide matérielle importante. On le voit, hein, on est dans une collaboration extrêmement étroite, mais quand même avec quelques réserves de la part et des restrictions, parce que je vous ai parlé du mur de Berlin, et bien certains élus américains estiment qu'il vaut peut-être mieux quand même envoyer les troupes à Berlin plutôt que de s'en servir comme figurant pour tourner un film. Et là, il est très important de, par exemple, l'armée française va énormément collaborer. Et c'est pour ça que la vision aussi du jour le plus long met très largement en avant, en tout cas surreprésente les Français, que ce soit en termes de résistance, que ce soit les commandos Kiefer, enfin les membres du numéro 4 commando avec les détachements français. Du commandant Kiefer. Et donc là, on voit bien cette surreprésentation, c'est aussi au prorata des moyens que chaque pays, chaque armée met sur la table pour tourner le film. Donc c'est un immense succès, en résumé, et qui va largement marquer les esprits en posant un regard qui, sur ce 6 juin 1944, qui satisfait à peu près la plupart des participants, des anciens belligérants. Même les Allemands ne sont pas exclus, ils sont intégrés avec cette idée d'une bonne armée allemande. Et à chaque fois, on a Kurt Jürgens qui incarne le chef d'état-major du commandant des forces allemandes à l'ouest, justement, qui vitupère contre Hitler, qui ne se réveille pas et qui... ça entérine encore l'idée que les panzers n'ont pas... les divisions de panzers n'ont pas été libérées en temps et en heure. Alors que c'est une vision très, en fait, qui est destinée à disculper justement les erreurs de commandement des généraux allemands sur place.
Oui, ça, on peut le dire aussi, c'est aussi dépendant d'un contexte et que les Allemands ont beaucoup façonné, enfin, un certain nombre d'Allemands ont beaucoup façonné la manière dont on a écrit cette histoire du débarquement de Normandie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés à l'ouest dans diverses conditions, mais qui ont beaucoup façonné, en tout cas le récit qui s'est fait aux États-Unis de ce moment-là, parce qu'ils ont donné assez largement leur vision. Pour tout ça, je renvoie évidemment à l'épisode qu'on avait fait autour de votre ouvrage, j'en mettrai le lien dans la description de l'épisode. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est donc de voir ce monument tel qu'il est, et de voir comment il a été revisité, remplacé, à certains égards, dans la mémoire collective. Alors je ne sais pas s'il a été complètement remplacé, mais en tout cas pour ma génération, c'est clairement le soldat Ryan qui marque ou qui emblématise le débarquement de Normandie. C'est intéressant parce que s'il y a bien deux films qui sont différents pour parler à peu près du même événement, en tout cas dans la manière de filmer les choses. Mais bon, en même temps, le soldat Ryan est différent de tout ce qui est venu avant à certains égards. C'est de là. Donc voilà, comment est-ce que vous... Qu'est-ce que vous pensez, disons, de cette manière que donc Steven Spielberg a eu de changer la vision, changer littéralement le point de focal, enfin de cette histoire du débarquement?
Eh bien,
je vais rappeler, c'est sorti en 98.
En 98, effectivement. Eh bien, on va faire, si vous le voulez bien, d'abord un arrêt entre donc 1962, le jour le plus long. Le soldat Ryan 1998, on va faire un arrêt en 1984, si vous le voulez bien, parce que ça illustre justement la dialectique, le dialogue entre d'un côté l'industrie hollywoodienne, les arts, et puis le milieu politique. Parce que en 1984, vous avez Ronald Reagan, ancien acteur lui-même à Hollywood, qui va faire l'un de ses discours parmi les plus importants de son double mandat à la Pointe du Hoc, le 6 juin 1984. C'est la première grande commémoration à laquelle participe un président américain en exercice, donc 1984, 40e anniversaire. Et donc, on va passer très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, y compris en termes de politique intérieure. Ça avait se profile déjà les élections suivantes. C'est aussi une période où on est toujours dans ce contexte de guerre froide. avec la crise des missiles, Pershing et SS-20, leur déploiement au niveau des deux Allemagnes. Et puis surtout, Reagan a été élu sur un programme où il voulait redonner de la fierté à l'Amérique. Déjà parce qu'il y a la crise économique, la sale guerre du Vietnam, et il veut redonner de la fierté à cette Amérique, et il va faire l'un de ses discours les plus prégnants devant des vétérans allemands sur la pointe du Hoc, et finalement il va raconter le récit, il va se réapproprier le récit fait par à la fois par Cornelius Ryan et Daryl Zanuck, qui va entériner, cautionner, il y aura une forme de caution politique du discours cinématographique, artistique. Et au demeurant, l'idée va imposer l'idée de ce sacrifice, de cette bravoure, de ces jeunes hommes, ce sont essentiellement des hommes, bien sûr, qui servent à l'époque, qui avaient traversé, qui avaient grandi, qui avaient été encore enfants au moment de la crise de 1929, terrible, et qui avaient répondu à l'appel du drapeau, qui avaient été enrôlés dans les forces armées américaines, qui avaient vaincu à la fois l'Allemagne nazie et dans le Pacifique, avaient vaincu le Japon, et puis qui ensuite avaient contribué à la croissance américaine. Alors pas les 30 glorieuses, on n'est pas en France, mais à cette abondance, et donc il avait participé à la grandeur des États-Unis. Et il va, il va mettre sur les rails, en tout cas, cette idée de cette génération grandiose, The Greatest Generation, qui sera le titre justement de l'ouvrage du journaliste Tom Brokaw, qui va paraître en 1998. Et là, j'en arrive justement au soldat Ryan, qui est l'illustration dans le droit fil de cette pensée, de ces soldats, justement, qu'il s'appelle le capitaine Miller, incarné par Tom Hanks en 1998, ou encore, on le voit aussi avec la série Band of Brothers, Frères d'âme, sur la Easy Company. Et là, on a aussi cette incarnation, justement, de ces hommes qui, finalement, avaient eu une enfance difficile dans une Amérique en crise dans les années 30, et qui avaient pourtant s'étaient battus pour la liberté. Et donc, on a cette caution du politique, et qui va finalement nourrir encore ensuite cette vision d'une Amérique triomphante, dans les années 1900, à la fin des années 1990, et ça correspond aussi à un moment de l'histoire. Ce moment, c'est celui finalement assez court, d'une dizaine, douzaine d'années, où nous avons une Amérique toute puissante, l'hyperpuissance, a dit Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, donc entre la chute du mur et puis les attentats du World Trade Center, qui vont donc 1989 jusqu'aux attentats du 11 septembre. Et donc là, on a lorsque sort Band of Brothers, la série, bien c'est, on arrive aux attentats du 11 septembre.
Mais alors si on entre un peu dans le détail de la manière dont c'est filmé, donc il y a cette scène, il y a une scène qui à certains égards a changé l'histoire du cinéma, celle du débarquement du soldat Ryan, puisque c'est... Voilà, c'est une scène filmée caméra à l'épaule et qui est d'une violence extrême, qui est filmée vraiment depuis l'intérieur des barges de débarquement, sous l'eau, etc. Comme un symbole, il y a du cinéma qui arrive sur la, enfin, il y a du sang, pardon, qui arrive sur l'objectif de la caméra à un moment, ce qui est à la fois un manifeste mais s'il y a un effet de réel qui est assez incomparable à ce qui est venu avant. Voilà. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est souvent ces scènes d'ultra-violence, enfin, en tout cas au cœur de la bataille, c'est plutôt à la fin, quoi. On essaye de construire un film pour que ça culmine à la fin, etc. Là, non, c'est dès le début. Ça commence avec des soldats qui vomissent dans des barges de débarquement, et ensuite, ça s'empire, si c'est possible. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette manière? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de filmer la guerre, de filmer les combats et la violence des combats? Ça n'a pas partout été comme ça, hein, le débarquement de Normandie. Enfin, là, sur Omaha Beach, ça a été un peu comme ça, à plein d'égards.
Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à effectivement ce que par rapport à ce constat de cette très grande violence. Effectivement, on le voit, en fait, une génération sépare le cinéma de Daryl Zanuck de celui de Steven Spielberg, hein, à peu près 1962-1998. Donc, on le voit bien, d'un côté, une violence euphémisée. Il y a presque pas de sang. D'ailleurs, c'est l'une des consignes de l'armée américaine lorsqu'elle lit le script, le scénario du film de Daryl Zanuck. C'est que, justement, il faut que la mort soit acceptable. Parce qu'il ne faut, faut pas apeurer les populations. Il faut donner une image très positive de la guerre, de la violence et même de la mort. Lorsque la mort doit être très, très soft, hein, si vous me permettez l'expression. 1998, il y a un autre rapport à la violence parce que, entre-temps, le cinéma américain s'est rendu compte, notamment après la guerre du Vietnam, qu'une guerre pouvait être sale. Alors, sale d'un point de vue moral, éthique, mais aussi sale dans la manière dont on pouvait la mener. Et puis, de toute façon, c'est d'abord l'exercice de la violence. Une société aussi qui tolère, qui a vu quand même de. Accepte cette tolère de plus en plus à l'écran cette violence. Il suffit de parler des films de Tarantino, même si on n'est pas dans des films de guerre, pas toujours. Cet aspect-là, il n'est pas non plus tout à fait nouveau, parce que à peu près au même moment, si vous vous rappelez, vous avez aussi Jean-Jacques Hano qui a tourné Stalingrad. Et qui a commencé, qui a voulu à peu près dans le même schéma. Alors il l'a sans doute, il a reconnu lui-même que il voulait, c'est ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire des scènes de grande violence d'entrée de jeu. En l'occurrence, là, c'est la traversée par les fantassins russes qui débarquent un peu hébétés des wagons pour être ensuite embarqués. Et puis alors là, sont mitraillés par les Stuka.
Je rappelle que c'est la version avec. Avec Jude Law. Voilà.
Avec Jude Law.
Ouais. Ne pas comparer. Il y a un autre Stalingrad qui est celui de Vils Meyer qui n'a pas grand chose à voir, mais qui n'est pas très loin, éloigné dans le temps d'ailleurs. Mais voilà, c'est le film hollywoodien, un grand spectacle sur Jude Law qui joue un sniper.
Exactement. Donc c'est pas tout à fait nouveau cette démarche d'inscrire tout de suite, de confronter le public presque d'emblée à de la violence. Sauf que Spielberg le réussit sans doute encore beaucoup mieux que Jean-Jacques Hano, parce que c'est effectivement ces moments sont autant qu'on puisse le dire, parce qu'aucun de nous n'a débarqué à Omaha Beach le 6 juin 1944, mais effectivement, l'impression laissée au public, l'idée qu'on ait, c'est un aspect, une impression d'immersion dans l'assaut guerrier. Alors, on pourrait, généralement, il est usuel de dire, de faire la distinction, les 20-30 premières minutes, qui paraissent d'un très grand réalisme, d'un réalisme absolu, et puis la deuxième partie qui, même si elle s'inspire de l'histoire des frères Nyland, dont certains, quatre frères, deux finalement ont été tués, on pensait que le troisième l'était, en fait, il était prisonnier, on n'en avait pas de nouvelles. Donc ça, c'est ce qui inspire, mais on voit bien que c'est quand même une fiction. Alors moi, je voudrais revenir quand même sur cette première partie. On ne cesse de dire qu'elle est d'un très grand réalisme. Eh bien, pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça, parce que qu'est-ce qu'on nous montre, finalement, si on se détache un petit peu, si on prend un tout petit peu de recul, on montre une compagnie d'infanterie qui débarque de Chalands, qui doit traverser une plage sous le feu ennemi, avec des positions fortifiées en hauteur, des défenseurs bien retranchés, qui ont des armes automatiques, eh bien, presque obligatoirement, ces troupes devraient être hachées menues sur la plage. Ils ne pourraient pas, ce qu'on nous montre en fait, c'est qu'ils arrivent presque à manœuvrer au pied des bunkers et puis à détruire la position ennemie. En fait, ce qui s'est passé le 6 juin 1944, ce n'est absolument pas cela. L'endroit le plus proche qui pourrait se ressembler, c'est au niveau de Vierville, c'est pour les pour les auditeurs qui connaissent un petit peu les lieux, avec des falaises qui dominent la plage. Là, on serait plus sur des tirs de flanquement.
Donc, toujours, ça, c'est toujours Omaha Beach. C'est ça, toujours ça fait partie Omaha des Beach. Quelques communes qui sont en bord de littoral à Omaha Beach.
Voilà, et lorsque justement j'ai l'occasion de visiter le site avec par exemple des stagiaires de l'école de guerre, j'aime bien faire un stop là pour leur montrer, pour leur expliquer que ce qu'on voit dans le film, bah, ce n'est pas possible, ça reste du cinéma. Parce que le principe, c'est que le feu tue. Et qu'une compagnie d'infanterie qui débarque comme cela, sous le feu des mitrailleuses ennemies, elle est vouée à l'échec sans appui-feu. Parce qu'elle ne peut absolument pas manœuvrer. Et la compagnie, je termine juste comme cela, la compagnie, la première compagnie d'assaut américaine a débarqué dans ce secteur-là, forte d'environ 150 hommes, et bien en l'espace de quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, elle était littéralement anéantie. Et à peu près à la fin de la journée, il y avait au moins une centaine de tués. La plupart des autres n'étaient pas en mesure de mener l'opération. Et les fantassins qui avaient réussi à progresser le plus loin, finalement, avaient été fauchés à quelques mètres du mur anti-char. En fait, Le 6 juin 1944, la plupart des troupes d'assaut qui réussissent, bien ce ne sont pas celles qui attaquent frontalement devant et qui débarquent devant les positions fortifiées, les nids de résistance allemande, mais c'est celles qui vont progresser sur les coteaux en profitant entre eux dans les intervalles des positions défensives allemandes.
Ouais, parce que rappelons, c'est ça le pitch général du soldat Ryan et de Mahabit, c'est qu'il y a un appui-feu, enfin, en tout cas il y a des... Il y a des tirs qui n'ont pas été faits, en tout cas de l'artillerie navale n'a pas été bien réglée, et donc ces bunkers qui étaient supposés avoir été éliminés par les navires, alors ici c'est américain et aussi anglais, d'ailleurs c'est intéressant, on ne voit pas du tout les navires anglais dans le soldat Ryan alors qu'ils étaient présents, ce qui est déjà un indice intéressant de certaines choses. Mais l'idée c'est que donc la phase de préparation a échoué et que c'est pour ça qu'ils sont obligés d'y aller avec leur courage et leur fusil et pas grand chose d'autre. Mais ce que vous indiquez, c'est ce qu'on oublie parce que c'est moins picturalement saisissant que des hommes qui débarquent avec seulement leur courage sur la plage. Mais il y a derrière beaucoup de navires qui sont là pour quand même préparer un peu le terrain à l'infanterie.
Oui, l'appui-feu, encore une fois, il est déterminant dans ce genre d'opération. C'est d'ailleurs la principale leçon de l'opération ratée à Dieppe, parce que là, les appuis, qu'ils soient aériens ou navals, étaient très largement insuffisants. Et donc, pour le coup, les stratèges alliés ont bien retenu la leçon. Ils vont vraiment mettre aligner des moyens considérables, surclasser littéralement ce que les défenseurs allemands peuvent opposer, que ce soit en nombre de pièces d'artillerie, que ce soit en tonnage, que ce soit aussi en portée de tir. Les batteries côtières allemandes sont largement surclassées. L'aviation aussi joue un rôle considérable, sauf pour Omaha Beach notamment, mais en fait c'est vrai pour la plupart des plages d'assaut, mais avec des conséquences plus importantes à Omaha Beach, c'est-à-dire que les bombardements aériens sont à l'époque d'une très grande imprécision. En fait, l'outil n'est pas adapté, c'est-à-dire ces gros quadrimoteurs bombardiers quadrimoteurs, ne sont absolument pas adaptés à une mission de tir de précision. Ils ont été conçus pour bombarder des zones entières, des villes par exemple, et donc ils échouent complètement à atteindre les défenses allemandes. À Omaha Beach, c'est d'autant plus dramatique que les défenseurs sont très largement privilégiés, bénéficient en tout cas de la topographie du terrain avec ces escarpements qui dominent littéralement la plage. Et donc ça va transformer cette plage en lieu de carnage.
Alors ça c'est la première partie du film, mais ensuite l'essentiel du film, en tout cas l'essentiel de la durée du film, se situe dans la phase d'après, qui est la phase que vous avez particulièrement étudiée, c'est-à-dire cette exploitation en quelque sorte, c'est-à-dire cette progression dans la Normandie et la manière dont les Allemands se replient, se reconstituent, résistent, ne résistent pas, etc. Alors, ça, toute cette deuxième partie, où en fait c'est un road trip, quoi, pour trouver un soldat qu'ils espèrent trouver, ils ne sont pas sûrs de trouver, donc le soldat Ryan. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de ce tableau de la Normandie occupée et d'un dispositif défensif extrêmement désorganisé par le débarquement, mais qui, malgré tout, il reste des poches, il reste une structure globale à l'efficacité inégale, disons.
Alors là, je serais plus circonspect, parce que dès qu'on connaît un peu l'histoire de la bataille de Normandie, quelque part, on n'y retrouve pas ces petits. On voit qu'il y a des bribes d'informations, on devine, c'est pas logique, parce que voilà, on sait qu'il débarque à Omaha Beach, le pont, il n'existe pas de village ou de commune du nom de Ramel, mais on devine très bien que c'est au niveau du Merderet, donc on est plutôt dans le secteur de largage de la 82e division aéroportée américaine. Et donc on est en face du Tabitch. Enfin, il y a des choses qui, il y a beaucoup d'aspects qui montrent, enfin qui ne rendent pas le film crédible. Là où il est peut-être plus intéressant, c'est la question posée par Spielberg, et finalement c'est aussi ça, hein, l'art, au-delà du... On sait que de toute façon ce n'est qu'une illusion, le cinéma ne reste qu'une illusion, après sinon on est dans le film documentaire, ce qu'il n'est pas. Là où il est intéressant, c'est qu'il pose des questions d'ordre philosophique. Est-ce qu'il est pertinent de risquer la vie de plusieurs hommes pour en sauver un seul? C'est là après à chacun de répondre à cette question. C'est peu, à la limite, on pourrait très bien transposer cette question pour les équipes de commando de l'armée de l'air qui doivent chercher à récupérer un pilote, par exemple, abattu au-delà des lignes. Voilà, c'est leur mission quelque part, mais parce que le commandement. Donc, mais on est dans ce type de questionnement là. Est-ce que ça vaut la peine? Et d'ailleurs, c'est toute cette seconde partie, c'est la responsabilité aussi d'un commandant d'entraîner ses hommes à la mort, même s'il risque lui-même sa propre vie. Mais là, il y a une scène dans l'église où on voit Tom Hanks qui incarne le capitaine Miller qui se dit, enfin, c'est sa manière de se raccrocher, c'est que j'en ai peut-être perdu 10, 50, mais j'en ai, pour chaque homme que j'ai perdu, j'en ai peut-être sauvé beaucoup plus. Alors voilà, on sent bien que c'est une manière, pour lui, une forme de défense d'ordre psychique. Mais c'est intéressant parce qu'il donne aussi un côté, à la fois bien sûr, ces premières minutes de carnage très terrifiant de la guerre, mais c'est aussi un côté très humain, parce qu'on voit aussi le héros, entre guillemets, de ce film, il est aussi, il est face à ses peurs, on le voit face à des tremblements de plus en plus fréquents. L'un de ses subordonnés, qui le connaît bien, qui le suit depuis manifestement l'Afrique du Nord, lui dit « il semble que ce métier ne vous convienne plus ». Et donc c'est aussi, ça le rend finalement très humain. Avec l'homme de guerre, le combattant confronté à ses propres peurs.
Et c'est intéressant, c'est un film à la morale, plus j'y pense et plus je le vois. Enfin, à ce stade, on l'a tous vu, l'essentiel de notre vie, ce film-là, mais plus je le vois, plus. La morale est. C'est intéressant, tous les personnages sympas meurent dans Le Soldat Ryan. Il reste que le lâche, le Soldat Ryan, dont on ne sait pas très bien s'il vaut le coup ou pas, etc. Mais tous les personnages, dès qu'ils apparaissent positifs, ils se font tuer de manière assez répétée, assez rapide. Et du coup, c'est le message qui est dégagé ou pas. C'est-à-dire, il y a une sorte de décalage entre ce fait qui est très brutal, qui est très pessimiste, et un côté extrêmement larmoyant. Qui est, bon, à bien des égards, ce qui est le plus irritant quand on revoit le film pour la énième fois, c'est évidemment le début et la fin avec ces plans soleil couchant sur un drapeau américain, où la première fois ça peut passer, mais au bout d'un moment ça finit un peu par agacer quand même, parce que ça n'a pas grand chose à voir par ailleurs avec le reste du film qui est, je trouve, a des qualités narratives excellentes et très serrées à plein d'égards, etc. Et puis il y a ces grands moments d'américanerie très très flamboyante, quoi. Et du coup c'est intéressant de le rapprocher de l'œuvre à laquelle vous y avez fait référence, qui est Band of Brothers, qui sort seulement 3 ans après. Et c'est intéressant parce que c'est bien que, enfin, je veux dire, il n'y a pas une génération d'écart, et c'est les mêmes personnes, c'est Tom Hanks et c'est Steven Spielberg, qui sont à la manœuvre et qui prend qui creuse le sillon. On reconnaît évidemment la patte, on reconnaît un peu la philosophie, et en même temps il y a plein de choses où ils prennent le contre-pied. Par exemple, le héros ne meurt pas à la fin, au contraire, il vit. Les côtés larmoyants sont plus larmoyants, c'est des documentaires, c'est des acteurs d'époque qui viennent témoigner au début de chaque épisode, et donc, du coup on a un effet de réel qui est beaucoup plus fort. C'est plus le débarquement de Normandie, c'est un parachutage. Du coup, voilà, comment est-ce que vous juxtaposez? Moi, je vais vous dire, assez souvent quand je vois Band of Brothers, j'ai l'impression que Le Soldat Ryan est une sorte de brouillon, et que Band of Brothers est, à certains égards, l'œuvre la plus aboutie et très loin. Mais peut-être que vous avez un avis différent sur la question.
Alors, effectivement, d'un côté, on est sur une œuvre de fiction, même si elle s'inspire, elle s'ancre, donc je parle bien sûr du Soldat Ryan. Et on a deux œuvres, donc Le Jour le plus long et Band of Brothers, qui, eux, nous disent « D'accord, c'est une fiction, mais en fait, on est là juste pour vous reconstituer comment ça s'est passé, ou à peu près. » Avec toujours ce mensonge du cinéma, parce qu'on ne reconstitue jamais, forcément, ce n'est pas ainsi la guerre. Donc, effectivement, moi, ce que je vois, c'est presque l'apothéose de Band of Brothers, puisqu'on, comme je vous l'ai dit, on revient sur le concept de Greatest Generation. C'est aussi une Amérique, une certaine vision de l'Amérique qui se plaît tend un miroir extrêmement avantageux, extrêmement flatteur. Parce que c'est encore une fois le capitaine, ensuite commandant Dick Winters, qui est le commandant de la Easy Company. C'est vraiment le héros à la fois simple, modeste, proche de ses hommes, très efficace sur le terrain, mais pas sanguinaire. Il a vraiment toutes
c'est
les qualités.
Captain America.
C'est Captain America, quelque part, mais incarné, fait homme. Et donc, on est dans cette approche. Hein. D'ailleurs, Stephen Ambrose y a participé aussi auparavant. Donc, c'est lui qui a écrit Band of Brothers, enfin, la série, le livre, pardon, avant même que la série, enfin, dont la série s'inspire. Il avait écrit Citizen Soldiers, Soldats Citoyens, parce que c'est son grand leitmotiv pour cet historien américain, c'est que le soldat américain, c'est pas un guerrier de métier, de profession, mais s'il le faut, il sait répondre au drapeau, à l'appel du drapeau, et puis il apprend, il sait se former, l'industrie américaine va l'équiper, et puis finalement on va l'envoyer et on va combattre et vaincre une armée qui paraît comme une armée formidable, et ce qui est vrai à peu près pour un bon nombre de conflits.
Et d'un autre côté, le Band of Brothers, donc c'est quoi, 10 fois 1 heure, c'est ça a le luxe du temps et du coup de montrer des choses que Soldat Ryan ne pouvait pas ou ne voulait pas montrer, et notamment de ce point, enfin, on voit des incompétents. On voit des lâches, on en voyait déjà, mais notamment le personnage qui évidemment inspire le plus ça, c'est le personnage qui est incarné par David Schwimmer, donc le capitaine Sauvel. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment le premier épisode, qui est celui de la préparation au débarquement, où on voit un capitaine qui est totalement incompétent, qui va manifestement mener ses hommes au carnage. Alors certes, ça se termine bien, mais en tout cas, ça permet de montrer quelques facettes qui sont moins facilement documentées, en tout cas dans des films réduits, enfin de 90 minutes ou de 2 heures. La série a pu prendre ce temps et ce luxe.
C'est tout l'avantage, et c'est aussi sans doute ce qui contribue au succès de ces séries. Alors là, on parle de Band of Brothers, mais on peut faire référence à de bon nombre de séries. Maintenant, elles sont légion. C'est qu'elles permettent justement de travailler sur l'évolution psychologique des individus. Voire de les faire apparaître, disparaître au gré des épisodes et des saisons. Parce que, on le voit bien, chacun d'entre nous, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on évolue tous. On ne réagit pas de la même manière cette année, comme on pouvait réagir avant la pandémie de Covid-19, parce qu'il y a, voilà, il y a des épisodes quand même qui marquent, qui bouleversent nos vies, et donc on peut avoir des approches différentes. Et la guerre est aussi, pour le moins, une expérience qui va être marquante, ou la vie en communauté, au sein d'une communauté militaire. Donc ça, c'est important. Le capitaine Sobel, oui, bien sûr, il est important, mais comme il le disait aussi l'un des sous-officiers qui avait été interrogé par Stephen Ambrose, qui figure dans son livre, c'est parce qu'il avait été, il était très mauvais tacticien, mais il était aussi un chef impitoyable. C'est lui qui a forgé justement le caractère élitiste de cette compagnie. Maintenant, je voudrais revenir sur un aspect, parce qu'on l'a effleuré, vous l'avez effleuré tout à l'heure en quelques mots, c'est aussi une vision très centrée de l'Amérique. Parce qu'on le voit dans ce processus mémorial historiographique. D'un côté, vous avez le jour le plus long, où on avait une approche très multinationale. Tous les acteurs sont pris en compte. Quand on regarde le soldat Ryan, on ne parle plus que des Américains. Lorsque les Britanniques, à un seul moment du film, sont évoqués, c'est pour dire que Montgomery piétine, les Britanniques piétinent devant Caen, on n'arrive pas à prendre Caen, et on fait dire au personnage de Tom Hanks que comme les Britanniques ne peuvent pas prendre Caen, les Américains ne peuvent pas prendre Cherbourg. Quand on regarde une carte de géographie, on se demande un peu pourquoi. Bref, il y a une forme de dénigrement. Alors soit au mieux c'est un silence, c'est de l'indifférence, soit c'est du dénigrement. Les civils français, encore une fois, on peut comparer le jour le plus long, où ils sont là, les Français sont vraiment mis en avant, y compris les civils. On voit Bourville, c'est un peu fantaisiste, Bourville avec un casque de pompier, un peu l'idiot sympathique, ou en tout cas tout à la joie de la libération. Et puis là, on les voit, les civils, on le voit avec des enfants qui sont prêts à abandonner leur enfant, estimant qu'ils seront leur fille sera protégée. Bref, on a une vision qui est beaucoup plus...
Rappelons, c'est la scène où Vin Diesel meurt, malheureusement. C'est toujours très amusant de revoir le soldat Ryan, parce qu'on se rappelle que Vin Diesel, la carrière aurait pu tourner différemment potentiellement, mais donc il va essayer de sauver, récupérer la fille, etc. Et il se fait tuer à ce moment-là, mais donc il y a deux Français qui sont tout à fait prêts à lâcher leurs enfants dès qu'ils voient des soldats américains, parce que voilà, on dirait qu'ils ont envie de s'en débarrasser.
Ouais. Donc voilà, on n'a pas une vision très, sympathique des Français. Et donc ça, c'est un aspect qui on voit bien l'évolution justement sur le regard qui est porté. Autre évolution, et là je reviens sur la gestion de la violence, c'est que les crimes de guerre aussi, la violence extra-légale, alors là pour le coup il y a une forme de continuité, parce que Daryl Zanuck, dans Le jour le plus long, avait quand même franchi une limite, avait désobéi. La censure américaine avait souhaité que la scène où des Rangers à la pointe du Hoc abattent des soldats allemands qui levaient les mains et qui voulaient se rendre, les abattent. Et donc ça, la censure américaine ne le souhaitait pas, en tout cas le Pentagone ne voulait pas. Mais Daryl Zanuck a un petit peu triché, puis finalement la scène est passée, aux grandes dames des autorités militaires américaines de l'époque. Et on voit que ce soit, et ça pour le coup ça me semble assez réaliste, on le voit dans Le soldat Ryan et on le voit aussi dans Band of Brothers, où l'exécution de prisonniers de guerre allemands est montrée sans détour. Ce qui peut aussi se...
Et je dirais même avec une sorte de gradation, c'est-à-dire dans Le soldat Ryan encore, il y a un côté, c'est presque dans le feu de l'action, c'est une fois qu'ils ont libéré le bunker, qu'ils l'ont passé au lance-flammes, etc. Mais c'est très dans la continuité, dans Band of Brothers, c'est vraiment un crime de guerre parce que c'est un camp de prisonniers qui est passé par les armes de manière totalement extra-légale. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, quoi.
Tout à fait, mais ça correspond à la réalité. Encore une fois, quand on regarde, c'est pendant la bataille de Normandie, c'est sans doute le 6 juin 1944 que les soldats alliés ont été les moins enclins à faire des prisonniers de guerre. Pour deux raisons. Soit pour des raisons tactiques, notamment ça c'était les consignes données à certaines unités parachutistes américaines. Effectivement, isolés derrière les lignes, c'était compliqué de garder des prisonniers. Et donc là on le voit dans Band of Brothers, et c'est d'ailleurs ce qu'écrit Stephen Ambrose, comme quoi des consignes verbales avant le saut avaient été données par la hiérarchie. Et puis après on est dans le quelque part une violence presque intemporelle, c'est-à-dire que lorsque vous montez à l'assaut, enfin lorsque des soldats montent à l'assaut, le stress, la peur, la violence, le fait de voir des amis mourir, et bien lorsqu'on arrive à l'assaut de la tranchée adverse, l'état psychique fait que il est très difficile de canaliser cette violence. Et d'ailleurs, je crois me rappeler que l'ex-chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, avait évoqué cet aspect-là lorsqu'il avait mené l'assaut alors qu'il était capitaine sur le pont de Verbania. Et c'est une violence qui est presque universelle à ce niveau-là, parce que encore une fois, monter à l'assaut, ça se fait dans un état psychique qui est tout sauf normal.
Et enfin, pour terminer justement sur Band, parce que ces trois œuvres mènent de plus en plus loin en quelque sorte, et dans Band of Brothers, on arrive jusqu'en Allemagne littéralement. Justement, alors c'est très scandé. Il y a une vraie rupture entre les épisodes. En tout cas, les premiers forment une sorte de tout, et puis ensuite, on les voit, ils ont progressé de 300 km d'un coup, etc. Bon, c'est d'ailleurs très plaisant parce qu'on se dit, c'est bien, ça avance bien. Mais dès lors, qu'est-ce que vous avez pensé en fait du tableau qui est fait de la progression des Alliés et de la manière dont ils font face à une armée allemande qui se replie? Je crois qu'il y a l'offensive des Ardennes. J'avais longtemps que je n'ai pas revu Band of Brothers, mais je crois qu'il y a les Ardennes qui paraissent relativement problématiques. Mais en tout cas, sinon, il y a quand même une sorte de mouvement assez serein, semble-t-il, vers l'Allemagne, quoi.
Serein ne serait peut-être pas le terme. En fait, alors, deux choses, c'est que d'une part, Band of Brothers retrace l'engagement d'une compagnie d'infanterie aéroportée parachutiste américaine, ce qui fait que c'est pas un engagement qui est permanent, mais ce sont des unités qui sont là justement pour mener, qui sont à la tête, à l'avant-garde des grandes offensives. Donc ça va être la Normandie, puis ensuite les unités, que ce soit la 82e ou la 101e aéroportée américaine, sont retirées début juillet pour être reconstituées. D'ailleurs, c'est évoqué dans la série. Et puis, pour justement, en vue d'une opportunité opérationnelle, parce que ce sont des unités qui sont précieuses en ce sens où elles permettent justement de de manière différente d'une unité d'infanterie classique, justement de mener des opérations plus risquées, en tout cas offrent un éventail de possibilités opératives plus importantes. Et donc c'est pour cela qu'ils sont engagés aux Pays-Bas. Mais ne participe pas à la poursuite, en tout cas à la libération de la France, du nord et de l'est de la France, donc engagé aux Pays-Bas, puis ensuite engagé là parce que ce sont les seules réserves disponibles, les 82e et 101e sont engagés dans les Ardennes comme infanterie tout à fait classique, avant ensuite d'être engagé plus tardivement en Allemagne. Donc c'est pour cela qu'il y a cet aspect qui peut paraître un peu haché, pour reprendre votre expression, mais ça correspond finalement à des opérations, ça scande un petit peu la stratégie alliée. Alors, c'est pas tout à fait aussi l'expérience du fantassin ordinaire qui, lui, est souvent condamné à mener des opérations de manière plus continue et finalement avec des pertes qui parfois peuvent être plus lourdes que finalement ces unités d'élite qui peuvent subir des pertes très importantes pendant un temps relativement court, mais finalement sur la longue durée, eh bien, c'est souvent les combats d'infanterie qui sont souvent coûteux et ingrats. Après, la manière dont les Allemands sont représentés, cette défense allemande, ça me semble assez proche, en tout cas, rien ne me choque dans l'ensemble. On peut toujours discuter de détails, mais la manière dont les forces allemandes sont représentées en tant qu'unité combattante, ça ne me semble pas, puisque ça me semble pas aberrant, dans la mesure où il reprend assez largement. Enfin, les auteurs, les réalisateurs reprennent assez largement, s'inspirent du travail de Stephen Ambrose. Donc là, non, il n'y a pas de, je n'aurais pas de commentaire particulier à faire.
Et enfin, peut-être dernier. Ouais.
Mais par contre, une chose, c'est l'impression fallacieuse, en tout cas chez certains, c'est ce qui est tout. J'ajoute cela. C'est qu'on a peut-être l'impression, le fait de se focaliser sur une seule compagnie d'infanterie, hein, donc c'est 150 hommes environ, on peut avoir l'impression que c'est cette compagnie qui a gagné la guerre en Europe occidentale à elle toute seule, ce qui est bien évidemment faux. Mais en tout cas, on voit à quel point cela a marqué les esprits et cette forme d'influence. C'est que on avait pu voir justement en 2014, on avait pu travailler, un étudiant avait pu travailler sur les groupes de reconstitution historique présents lors des commémorations du 6 juin et s'apercevait qu'à peu près, grosso modo, les trois quarts des groupes de reconstitution incarnaient des troupes américaines. Et sur ces groupes de reconstitution américains, à peu près les trois quarts reconstituaient les divisions aéroportées américaines, et souvent, en tout cas une partie d'entre eux, la Easy Company, donc, ou au moins le 506e régiment évoqué. Donc on voit l'impact, l'influence du cinéma à travers ce simple constat.
Oui, mais c'est intéressant parce que c'est un parti pris narratif qui est évidemment très compréhensible. On a besoin d'avoir des personnages identifiés, identifiables, auxquels on peut s'identifier aussi et avec lesquels on peut empathiser. Et en même temps, c'est aussi les limites de tout ça, c'est qu'il y a un immense enjeu de coordination, d'articulation, des dispositifs, de faire des liaisons qui sont parfois évoquées, mais pas toujours. Mais c'est des masses gigantesques d'hommes qu'il faut réussir à disposer et à déployer de manière à peu près harmonieuse et cohérente. Et tout ça, on reste toujours un peu à l'échelon tactique dans une certaine mesure. On ne voit pas en fait que l'enjeu de tout ça, c'est de réussir à faire bouger des dizaines de milliers d'hommes de manière cohérente. Et on voit juste des gens qui prennent place dans un fourré et qui le font très bien. On déplace un peu l'enjeu que ça a été, ce qui allait faire que ça réussisse ou pas le débarquement de Normandie, et puis d'une manière générale, toute la libération de la France.
Oui, tout à fait, vous avez raison. À chaque fois, la plupart des films de guerre nous montrent finalement vraiment la pointe, l'extrême pointe de la flèche qui est incarnée par les troupes de combat en première ligne. Mais finalement, après, vous avez tout le corps de la flèche qui est là derrière et qui est déterminante. Prenons ce simple exemple. On associe très souvent le débarquement de Normandie dans la mémoire sociale à une opération américaine. Or, les contingents, alors d'un côté américain et de l'autre anglo-canadien, étaient à peu près équivalents en termes d'hommes en termes d'hommes débarqués le 6 juin. Par contre, on oublie que deux tiers, trois quarts, même plutôt les trois quarts des bâtiments de la flotte alliée étaient sous pavillon britannique. En fait, majoritairement, le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, parce que c'est ce jour-là surtout qu'on commémore plutôt que la bataille de Normandie, eh bien ce jour-là, ce sont les Britanniques qui sont majoritaires, mais ce n'est pas absolument pas ce dont se rappelle la mémoire sociale, qui a plutôt tendance à associer le 6 juin à un succès américain. ou en tout cas à une opération américaine. Parce qu'encore une fois, la logistique, après, bien sûr, elle sera importante au niveau des États-Unis. Mais vous voyez que la logistique du 6 juin, en tout cas, à travers les bâtiments transportés, les bâtiments de la flotte qui ont servi à transporter les contingents, eh bien, ils étaient britanniques.
C'est l'avantage d'avoir Hollywood, c'est qu'on peut choisir où on place la caméra.
Tout à fait.
Merci beaucoup Jean-Luc Leleu. Donc je vais rappeler les références de votre ouvrage Le combattre en dictature 1944, la Wehrmacht face au débarquement paru chez Perrin. Je peux rappeler que vous avez aussi travaillé sur l'ASS, c'est des ouvrages un peu plus anciens, et donc ces trois œuvres qu'on a mis en parallèle, donc Le jour le plus long, Il faut saluer le soldat Ryan et Band of Brothers. Je peux signaler que Band of Brothers fait lui-même cohérence avec The Pacific dont on a parlé récemment à ce micro, et que d'ailleurs j'ai appuyé depuis, il y a une troisième série qui va sortir très prochainement sur l'US Air Force qui s'appelle Masters of the Air, qui sort je crois en début d'année 2024, qui sera évidemment, si c'est de la même facture que les deux autres, ce qui sera évidemment extrêmement intéressant à regarder. Merci beaucoup.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.